Bilan COVID pour aujourd'hui, 86 nouveaux cas. Donc, c'est une augmentation par rapport à hier. Hier, c'était 64. Aujourd'hui, c'est 86. Mais c'est la septième journée de suite où on a moins de 100 cas. Donc, total du nombre de personnes infectées jusqu'à maintenant, 61 402. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais un décès est survenu à une date non précisée. Fait qu'on est rendu à 5 730 décès. Le nombre d'hospitalisations, c'est stable à 146 et 25 de ces personnes se trouvent aux soins intensifs. Là, on va aller rejoindre le docteur Richard Marchand, qui est microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Marchand.
Bonjour, M. Drainville.
Parce que on s'est donné rendez-vous, vous et moi, pour discuter de ce test basé sur la salive qui a été approuvé aux États-Unis et qui pourrait être disponible au Québec. Dites-nous comment ça fonctionnerait.
En fait, le virus est excrété dans les sécrétions pulmonaires et nasales et plusieurs le recherchent. Par exemple, moi, à l'Institut de cardiologie, je le fais sur du personnel depuis environ 2 mois. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. D'abord, parce que le liquide qui stabilise le virus est dans un tube dans lequel on crache et ce liquide-là n'est pas nécessairement compatible avec toutes les plateformes analytiques des différents hôpitaux. Hein, vous savez que notre système est très hospitalo-centrique. Là.
Oui.
En théorie, tout est centré sur le fonctionnement des hôpitaux. Or, comme les hôpitaux n'ont pas nécessairement le même équipement, et si votre équipement ne peut pas être compatible, par exemple, avec le liquide qu'il y a dans ce tube-là de prélèvement, ben vous ne pourriez pas travailler ou faire le diagnostic à partir de la salive. Ça, c'est une chose. Ça va un peu avec notre mentalité à nous, là, où tout est centré autour du fonctionnement hospitalier puis des équipements qu'ils ont.
OK, mais vous me dites, attends un peu, là. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez, c'est un développement positif, le test basé sur la salive. D'abord, ça va être beaucoup moins intrusif, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui passent le test, là, qui nous le disent, là, l'écouvillon, ça fait mal, c'est pas agréable, là. Bon, alors que la salive, évidemment, ça règle ce problème-là. Ce serait pas trop coûteux, d'après ce qu'on comprend. Ce serait pas trop coûteux et ce serait beaucoup plus facile à administrer. Là, on évoque un scénario, par exemple, où un employé, un collègue de travail pourrait faire cracher les employés dans des fioles et puis on apporte les fioles dans une clinique de dépistage, comme c'est le cas présentement, puis on aurait les résultats. Vous avez pas l'air... Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, le test de salive ou pas?
Pour moi, c'est une excellente nouvelle. En fait, je trouve qu'on tarde trop à l'amener parce qu'on considère encore une fois le diagnostic à l'échelle. En fait, c'est notre système qui est comme ça, à l'échelle des établissements. Vous voyez, une secrétaire dans une entreprise pourrait recevoir 50 tubes, les distribuer aux travailleurs et dire remplissez la feuille qui va avec, là, parce qu'il faut les numéros des noms, les numéros de téléphone et tout ça, puis bingo, mettre ça dans un paquet puis envoyer ça dans les labos qui pourraient procéder. Fait qu'en fait, on pourrait tester n'importe où.
Mais oui.
Si on comprend un peu, par exemple... Prenez l'Europe. En France, en Allemagne, vous allez à la pharmacie, vous vous faites tester pour vos anticorps, par exemple. Hein, ben voyez la différence. Nous, on pourrait avoir 20 hôpitaux à peu près ici au Québec qui pourraient peut-être faire 1000 tests par jour. Ça fait 20 000 tests. Mais si vous avez 20 000 pharmacies, bureaux de docteurs, de dentistes, de podiatres, de physiothérapeutes, en fait...
De laboratoires privés aussi.
20 000 labos privés qui ne feraient que 10 tests par jour, vous feriez 200 000 tests par jour. Ça serait tellement plus simple. Or, dans un contexte où quand on raisonne une pandémie, puis qu'on rattrape ça autour de l'hôpital, autour des capacités hospitalières de tester, qui étaient déjà, en passant, saturées avant même la pandémie. Là. Hein, vous savez, dans les hôpitaux, là, on fonctionne toujours à la limite de nos capacités. Mmh. Puis durant l'été, là, ou quand il y a un congé, faut fermer des lits, faut diminuer parce qu'on n'a pas de capacité excédentaire du tout.
OK, fait que je comprends ce que vous me dites. Vous me dites, dans le fond, le test basé sur la salive, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée dans la mesure où on change notre manière de faire. Si les tests sur la salive se retrouvent dans les mêmes laboratoires que ceux où se retrouvent les tests actuels, on ne sera pas plus avancé parce qu'ils sont déjà étirés au maximum.
Mais on va avoir le même goulot d'étranglement.
Voilà.
C'est exactement ça.
Alors que si on y va vers le test sur la salive, à ce moment-là, il faut décentraliser, dans le fond, l'équipement puis les laboratoires qui vont pouvoir analyser l'échantillon de salive et nous donner les résultats rapidement pour qu'on sache si on est infecté ou pas. Si on met ça en place de cette manière-là, ça pourrait fonctionner.
Ben, ça pourrait faciliter la tâche et ça permettrait aux citoyens ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. C'est la capacité, par exemple, d'aller se faire tester si je me sens pas bien. Assez facilement, au lieu d'attendre 5 heures, par exemple, dans un centre de prélèvement, on pourrait accéder à beaucoup, beaucoup d'endroits. Et dans un contexte ou dans un contexte de pandémie, justement, le but, c'est de tout faire pour pas aller à l'hôpital, pas aller aux endroits où est le virus, parce que c'est là où on amène les gens infectés. Mais quand on permet à la décentralisation, et c'est ça que l'Europe vise, par exemple, c'est ça que la Corée a visé aussi, mais on tarde un peu à faire ça. Bon, le prétexte, c'est effectivement, bon, on a beaucoup de difficultés à avoir accès aux réactifs pour tester, parce qu'il y a une demande mondiale qui déborde la capacité de production. Après ça, ben, il y a aussi tout le fait que nos plateformes d'analyse sont pas toutes égales, ils sont pas toutes capacitantes de la même façon, que les tests de sensibilité sont pas tous pareils. Vous savez, dans un hôpital, j'ai besoin d'un test extrêmement sensible à quelques virus près, mais dans la population générale, quand quelqu'un est très malade, j'ai pas besoin d'un test extrêmement sensible pour le dépister, il excrète des tonnes de virus, alors que c'est la symptomatique dans la population qui, lui, a aucun symptôme. C'est là que j'ai besoin d'un test sensible, parce qu'il en excrète peut-être pas beaucoup. Bon. Puis, vous voyez, donc tout ça doit être regardé dans un contexte d'accès et de capacité technique de faire le tout. Puis ces tests-là, en tout cas, la salive permettrait de tester à grande échelle dans une école. Faire cracher un petit gars de 10-12 ans, là, les petits, dans un secondaire ou dans un primaire, c'est très facile. Bien plus facile que leur mettre une espèce de bâton dans le nez.
Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, vous venez de parler des réactifs dont on a manqué ou failli manquer le printemps passé. En tout cas, on est venu proche d'en manquer, là. Je pense qu'on peut dire qu'à certains endroits, il y avait une pénurie. Mais ce que je comprends avec le test de salive qui a été approuvé aux États-Unis et qui est maintenant expérimenté ici au Québec là par la santé publique, par le laboratoire de santé publique, ce que je comprends avec le test de salive, c'est qu'on n'a pas besoin de réactifs.
On a besoin des réactifs de la même façon. Ça reste toujours le goulot d'étranglement. Donc, le goulot d'étranglement, d'une part, c'est les réactifs. Puis après ça, c'est la capacité technique d'opérer.
Là, actuellement... Attendez un peu, docteur Marchand. Je veux juste être bien clair parce que je lis le papier de Philippe Mercure. Puis ce qu'on dit, c'est que par rapport à ce test de salive, la deuxième innovation vient du fait que le test n'implique pas d'extraction chimique pour extraire l'ARN du virus. Et là, il ajoute, le printemps dernier, la pénurie de réactifs nécessaires à cette étape avait limité la capacité de tester. Ce que je comprenais dans ce qu'il écrivait, c'est qu'on n'avait pas besoin de réactifs. Vous me dites qu'on en a besoin encore malgré... Oui?
Bon, il faut comprendre, l'ARN est présent, on détecte le virus par une technique de polymérase. Mais certains tests nécessitent une extraction, certaines plateformes, non. Fait que, voyez-vous, c'est encore une fois, la capacité, la sensibilité et la précision des tests dépend des différentes plateformes. Et voyez-vous, dans la salive, quand il y a beaucoup de virus, on n'a pas besoin de faire une extraction pour aller chercher le dernier petit virus qu'il pourrait y avoir. Fait que les capacités de procéder sans extraction, même s'ils sont moins sensibles, sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus faciles à faire. Mais dans tous les cas, même que question de réactif ou pas, ça me prend la machine pour l'opérer.
Ah oui, donc ça c'est clair.
Ça me prend le technicien formé pour l'opérer. Et actuellement, prenons l'exemple, les hôpitaux étaient déjà à saturation avant la pandémie. Pendant la pandémie, ils débordaient dans bien des cas. Et là, durant l'été, alors qu'on leur demande de prendre des vacances, pour récupérer le temps perdu, on a dit, vous allez faire du 130% si possible. Ce qui fait que dans la réalité, les tests qui étaient en retard pour les cancers, pour les anémies, pour tout ça, occupent nos laboratoires là, de façon complète. Fait que si on veut augmenter notre capacité de suivre dans la population, ben, il faudrait permettre de tester sur une base autre que centrée sur les hôpitaux.
Oui, on a bien compris ça. On a bien compris ça. Là, j'ai un auditeur qui me pose la question. Est-ce que ce serait pas possible d'avoir un test... genre test de grossesse, tu craches sur un bidule, par exemple, puis là, si la couleur change, t'es positif ou négatif. C'est Pierre qui pose la question. Il n'est pas le seul à se la poser.
Actuellement, pour la détection des anticorps. Donc, les anticorps apparaissent à peu près la 6e, 7e, 8e journée après le début de la maladie. Donc, quand vous êtes malade, ben, vous êtes à la maison, mais vous êtes malade. si vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital, on ne vous teste pas, mais si la semaine d'après, vous voulez savoir quelle est la maladie que vous aviez fait, est-ce que c'est la COVID, bien là, on fait un test sur les anticorps a posteriori dans la semaine qui suit. C'est le modus operandi principal qu'on voit en Europe. Puis on détecte plutôt vos anticorps à partir d'une goutte de sang que vous mettez sur une petite plaque comme un test de grossesse. Ces tests-là sont actuellement approuvés ou en processus d'approbation par Santé Canada. Ils sont distribués largement en Europe. Nous autres, c'est une question de jours avant qu'ils soient disponibles. Sauf que la façon dont on fonctionne au Québec, oui, c'est que les tests doivent être faits dans un contexte de prescription médicale. Pour toutes sortes de raisons qui a été choisie par l'État, si on n'a pas le droit d'opérer ou de faire un test, sauf le test de grossesse, parce que la grossesse n'est pas considérée comme une maladie, et les glycémies qui sont faites, par exemple, dans les pharmacies.
Mais là, docteur Marchand, à la faveur d'une deuxième vague de la COVID, on pourrait changer, on pourrait assouplir ces règles-là, non, pour permettre justement des prélèvements sanguins beaucoup plus rapides?
Ben c'est ce que je dis aussi, c'est que à mon avis c'est la solution. Mais vous savez, on a affaire à un monstre bureaucratique, hein, le réseau de la santé. Je pense que les gens l'ont bien compris. C'est pas facile de changer le bateau dans ses habitudes, de le rediriger. Puis en même temps, ben regardez du point de vue politique, là, le fait de tout centrer vers les hôpitaux, ben c'est un goulot d'étranglement qui vous permet de contrôler aussi vos coûts. Fait qu'il y a toutes sortes de pressions qui agissent sur les systèmes pour essayer de contrôler les coûts d'une barre, mais en donner un peu de l'autre en fonction des besoins. Mais c'est clair que si on a une deuxième vague, je crois que les gens vont exiger plus d'accès à l'extérieur du réseau de la santé. Prenez un exemple, un bureau de comptable, vous avez 5 comptables qui font des révisions. Bien, si vous êtes capable de savoir que 2 ou 3 de vos comptables ont des anticorps, donc sont immuns, mais c'est ceux-là que vous pouvez envoyer chez les clients. Il ne pourra pas attraper plus qu'il l'a déjà vu, s'il l'a déjà fait. Oui. Et vos 2 comptables qui ne sont pas immuns, ben vous les gardez à l'office, au bureau, puis ils font la révision des livres.
Mais encore, vous pouvez gérer vos risques. Ben oui, mais encore faut-il que tu saches si tu as été infecté ou pas, c'est ça, ou si tu l'es infecté ou pas.
2 sur 4 on fait la maladie sans jamais s'en rendre compte. Ça, les chiffres, là, les sérologies qui ont été faites nous le disent. Clairement, il y a facilement plus de 10 personnes qui ont été positives pour chacune. Et là-dedans, il y en a 2 sur 4 qui étaient asymptomatiques. Si on ne les teste pas pour faire des anticorps, pour regarder ce qu'ils ont comme défense, ben vous ne pouvez pas le savoir.
Oui, mais ça, c'est une autre chose. Là, vous amenez dans la discussion le test sérologique. Ce n'est pas de ça dont on parle. Avec la salive, on parle de tests de détection de la COVID. Les tests sérologiques, ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas sûr qu'on est très, très... Comment ça va, ça, les tests sérologiques, en terminant, Dr Marchand? Est-ce que ça augmente? Est-ce qu'on va y avoir accès? Ça, c'est les tests qui nous permettent de mesurer la présence d'anticorps, donc qui nous permettent de dire si on l'a eu, le virus ou pas, là.
C'est ça. Les tests sérologiques ont été autorisés par le ministère il y a à peu près 2 semaines, comme tel. Il y avait plusieurs hôpitaux qui étaient un petit peu délinquants puis qui en faisaient par eux-mêmes, là, comme tel, avec des trousses qu'on avait fait venir en contournant les systèmes habituels. Et on avait comme ça une bonne idée qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens, au moins 2 sur 4, qui avaient contacté le virus, qui n'avaient pas fait de symptômes réels. Donc, ça, on sait ça. Et là, avec l'arrivée des tests qui vont, des trousses commerciales, on devrait être capable de faire de la sérologie à partir des prises de sang, parce que les plateformes qui ont été autorisées, c'est les plateformes hospitalières. Donc, c'est une prise de sang. Donc, si on veut savoir si vous avez des anticorps au moment où on se parle au Québec, il faut que vous passiez par un phlébotomiste, donc quelqu'un qui fait une prise de sang. Vous ne pourrez pas vous faire faire ça, là, dans une fenêtre d'automobile. Il va falloir qu'on vous sorte de l'auto pour vous piquer.
C'est bien compliqué.
En Europe, on prend une petite goutte de sang. On vous met ça sur le bout de la petite cassette. Bon. Ce qui fait que, vous voyez, encore une fois, c'est raisonne hôpital, mais on ne raisonne pas population.
On s'entend là-dessus. Dr Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci.
Bonne journée.
Oui, bonne journée, Dr Marchand. Tu sors d'une entrevue comme celle-là et tu dis, hey, je te dis qu'on a du travail à faire pour être prêt pour la deuxième vague. Hein? Il va falloir être un petit peu plus efficace, un petit peu plus créatif. Hein? Changer nos habitudes, décentraliser le pouvoir un petit peu, là. Hein? Je sais pas. Il me semble, là. Ça serait temps, là. Parce que là, tu sais, je veux dire, c'est parce que ça arrive, là. Ça s'en vient, là. On s'arrête au retour. On retourne à Luc qui va nous raconter une histoire. Ça se passe en Russie. C'est loin de nous. Mais en même temps, ça nous rappelle à quel point Poutine et compagnie, là, Ils font taire les opposants. Puis je vais vous dire, ils s'y prennent d'une manière assez radicale. Vous allez voir, eux autres, ils niaisent pas avec l'opposition politique en Russie.